France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information avec le journal de la rédaction et vous, Thomas Cluzel, rebonjour.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et nous serons en Iran dès le début du journal pour y entendre notre correspondant malgré le blackout imposé par le régime après deux semaines d'un vaste mouvement de contestation, une répression meurtrière. On s'intéressera par ailleurs au malaise de la Russie face à la chute possible d'un précieux partenaire. Et puis, avec notre invité, on tâchera de démêler justement le jeu fluctuant des alliances à l'œuvre autour des chancellements du régime de Téhéran. L'actualité en France, c'est notamment la colère des avocats du barreau de Paris qui s'insurgent contre la venue ce soir à leur assemblée générale extraordinaire du garde des Sceaux en personne, Gérald Darmanin. Et puis on détaillera cette amende inédite de plusieurs dizaines de millions d'euros infligée à l'opérateur de téléphonie Free. Renverser le régime des Mollahs ou seulement affaiblir le pouvoir en place, mener des frappes ciblées ou lancer une offensive militaire d'envergure, l'intervention en Iran promise par le président américain qui hier encore affirmait que le soutien aux manifestants était, je cite, en route, se fait toujours attendre et surtout laisse la voie à plusieurs scénarios possibles. Et pour cause, sans doute, l'administration Trump elle-même est-elle encore partagée compte tenu d'une part du risque de forte riposte iranienne et d'autre part d'enlisement américain. Et d'ailleurs, en dépit du ton, c'est vrai, de plus en plus belliqueux de Donald Trump, la voie diplomatique n'est pas non plus tout à fait écarté. Reste à connaître le moment opportun. Washington pourrait vouloir négocier d'abord, puis engager des frappes, ou bien frapper d'abord pour mieux négocier ensuite. Bref, on le voit, les options sont multiples, même si du côté de la République islamique, l'affaire semble entendue. En clair, Téhéran accuse Washington de chercher un prétexte pour intervenir militairement. Et avant d'essayer de mieux discerner justement à la fois le motif, les moyens, les objectifs des États-Unis, intéressons-nous tout d'abord à la situation en Iran. Après deux semaines d'une contestation sociale d'ampleur née de l'effondrement économique du pays, la répression organisée par le régime fait craindre un véritable massacre, c'est du moins ce que laissent entendre et entrevoir les rares témoignages qui parviennent de l'intérieur. C'est le cas en particulier avec ces vidéos téléchargées sur les réseaux sociaux malgré la coupure internet et qui montre de très nombreux corps entassés dans une morgue gisant à même le sol, certains enveloppés dans des sacs mortuaires, d'autres seulement étendus sur des brancards. Pour l'heure, le bilan reste difficile à établir, mais il est vraisemblablement effroyable. Des centaines de morts, sans compter les plus de 10 000 personnes au moins arrêtées. Nicolas Teillard a pu joindre sur place notre correspondant Siavosh Ghazi.
La tension est perceptible. En revanche, depuis, je dirais, la journée de lundi, j'ai pas eu de témoignage de nouvelles manifestations. Il y a beaucoup de colère. Les gens ont été vraiment choqués par ces images qu'on a pu voir de cette morgue dans le sud de Téhéran. On voit des centaines de corps allongés à même le sol dans des sacs mortuaires. Et puis les familles qui essayent de retrouver des proches tués, d'identifier en allant regarder les différents corps. Ça a beaucoup choqué, ça a provoqué une très grande colère dans la population. Beaucoup ne croyaient pas leurs yeux, ne croyaient pas qu'il y avait eu autant de morts. Il y a énormément de forces de l'ordre qui sont déployées le soir à la tombée de la nuit. Et beaucoup de gens qui ont été arrêtés. Il y a une sorte de reprise en main de la part du pouvoir. Et bien évidemment, le fait que l'Internet soit coupé fait que la vie est au ralenti.
Donald Trump multiplie les avertissements contre le régime. Et comment est-ce que ces messages sont perçus? Est-ce qu'il y a une attente d'une intervention américaine?
Alors, les gens ne parlent que de cela dans les conversations. On se demande comment les États-Unis vont intervenir. Vont-ils viser les dirigeants politiques ou militaires? Vont-ils viser des bases des gardiens de la Révolution ou des forces de l'ordre? C'est des questions qui reviennent dans toutes les conversations. Certaines personnes le souhaitent, d'autres craignent un engrenage qui ferait basculer le pays dans des violences encore plus dures, avec le risque de déstabilisation, comme on a pu le voir en Libye, en Syrie ou en Irak. En tout cas, côté pouvoir, le ton est très ferme. Les responsables iraniens menacent les États-Unis de représailles en cas d'attaque contre l'Iran, prêtes à répondre à toute agression extérieure.
Siavosh Ghazi, donc correspondant de France Culture à Téhéran, joint au téléphone par Nicolas Teillard. Alors, ces derniers événements en Iran sont aujourd'hui observés partout de très près, et notamment du côté de la Russie. Il faut dire que les deux pays figurent actuellement parmi les plus sanctionnés au monde, et c'est ainsi que durant ces quatre dernières années déjà, le régime autocratique de Moscou d'un côté et le régime d'oppression théocratique de Téhéran de l'autre se sont beaucoup rapprochés, multipliant les collaborations. Sauf que dans le contexte actuel, on voit mal désormais comment le Kremlin pourrait vraiment influer sur la situation pour conserver son allié. Les précisions depuis Moscou de notre correspondant Sylvain Tronchet.
Signe clair d'un vrai malaise à Moscou, aucun dirigeant russe de premier plan ne s'est exprimé sur la situation en Iran. Seul, l'ancien ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a condamné une tentative d'ingérence dans les affaires intérieures iraniennes, mais pas plus que pour le Venezuela. Le Kremlin ne semble décidé à se mouiller pour venir au secours d'un pays qu'il présentait pourtant il y a peu comme un allié stratégique. L'Iran et la Russie ont développé de nombreuses collaborations, militaires notamment, ces quatre dernières années, mais le fait est que Moscou, englué dans la guerre en Ukraine, n'a ni les moyens, ni vraiment d'intérêt à s'opposer à Washington sur ce dossier. La Maison-Blanche a durci le ton ces derniers jours à l'égard de la Russie, condamnant l'utilisation d'un missile Oreshnik en Ukraine et accentuant la pression sur les exportations de pétrole russe. Après Bachar el-Assad et Nicolas Maduro, c'est comme si Moscou s'était déjà résigné à perdre un allié.
Alors on l'aura compris, la poudrière que représente aujourd'hui l'Iran, alimentée par l'imprévisibilité du nouvel impérialisme américain, pose nécessairement la question du jeu des alliances et de la réorganisation ou non des sphères d'influence. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction à présent, Fatia Dazieni, chercheuse spécialiste de la péninsule arabique à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, et par ailleurs autrice d'un ouvrage paru chez Talendier intitulé « L'Arabie Saoudite en 100 questions ». Bonjour madame.
Bonjour.
La nuit dernière, Donald Trump a réitéré donc ses menaces à l'égard de l'Iran en affirmant que les États-Unis se préparaient à agir de manière très forte. Le président laisse notamment planer l'ombre d'une intervention militaire. Est-ce que l'on sait précisément quels sont les scénarios envisagés par Washington ?
Il y a de multiples déclarations assez contradictoires du président Trump. Effectivement, des menaces de bombardement en Iran, et puis également d'autres déclarations temporisant un peu. On a l'impression que les choses sont étudiées de près, mais je lisais là il y a quelques minutes une déclaration demandant au personnel de la base militaire américaine d'Al Udeid basée au Qatar d'évacuer le site. Donc il y a quand même visiblement, alors je ne sais pas si c'est de la surenchère, mais très clairement une intention de frapper. Alors de quelle manière est-ce que ce sera ciblé sur les sites nucléaires, les sites de missiles balistiques, etc. On ne sait pas, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, pour ne pas être une spécialiste de la politique américaine, c'est que dans la région du Golfe, les pays craignent à nouveau le pire et l'escalade à Téhéran, en Iran.
En l'occurrence, à l'opposé de Donald Trump donc et de ses déclarations tonitruantes, les différentes puissances arabes régionales justement entretiennent jusqu'ici un silence, disons, prudent à l'égard de la situation, à tout le moins publiquement, puisqu'à en croire les indiscrétions obtenues par le Wall Street Journal, l'Arabie Saoudite et plusieurs autres pays du Golfe tenteraient activement de dissuader l'administration américaine d'intervenir. Est-ce que cela vous paraît effectivement possible? Et si oui, que redoute-t-il?
Alors bien sûr, l'Arabie Saoudite, le sultanat d'Oman, qui est coutumier de médiation entre l'Iran et les États-Unis et le Qatar, s'active beaucoup en coulisses, bien sûr, auprès de l'administration américaine, pour tenter d'éviter un scénario catastrophe qui embraserait toute la région. Ils ont très très peur de ça. On a déjà vu les réactions des pays du Golfe lorsqu'il y a eu cet affrontement entre Israël et l'Iran. Ils ont eu exactement la même attitude, essayer de temporiser pour ne pas avoir à nouveau un conflit ouvert dans la région.
Parmi les grandes puissances donc, qui structurent habituellement les équilibres régionaux au Moyen-Orient, deux autres pays semblent briller par leur discrétion. La Russie, d'une part, on vient d'en parler avec notre correspondant, et puis la Chine. Comment est-ce que vous comprenez que Pékin ne se manifeste pas davantage en défense de son allié dans la région?
C'est pas nouveau, hein. Pékin est assez coutumier de ce fait, et d'ailleurs c'est quelque chose qui embarrasse aussi les partenaires du Golfe, hein, qui trouvent que la Chine est certes une puissance globale, mais n'assume pas sa responsabilité en tant que grande puissance en matière sécuritaire. Et la Chine ne s'est jamais cachée qu'elle n'avait absolument aucune intention de le faire. Ce sont surtout des questions et de géoéconomie et d'économie qui intéressent la Chine et pas tellement sécuritaire.
Précisément, après le Venezuela, c'est la deuxième fois en réalité que Donald Trump cherche à s'en prendre ainsi à un pays important pour les approvisionnements en pétrole de la Chine. Diriez-vous que Pékin est en réalité la cible prioritaire visée par Washington ?
Ah oui, moi j'en suis convaincue. Il est très clair que de ce point de vue-là, Trump est très cohérent. Hein. C'est absolument s'en prendre aux intérêts économiques de la Chine. C'est sa priorité numéro un, on l'a vu sur le Venezuela. Et là, récemment, il vient d'annoncer que les pays qui commerçaient avec l'Iran et donc importaient du pétrole d'Iran seraient à nouveau taxés de 25% en plus sur les droits de douane. Donc c'est clairement la Chine qui est visée.
C'est bien compris. Merci Fatia Dazieni, chercheuse spécialiste donc de la péninsule arabique à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Et tandis que Donald Trump menace d'intervenir en Iran, les chefs de la diplomatie danoise et groenlandaise se rendent aujourd'hui à la Maison Blanche pour un entretien sous haute tension.
Oui, face aux appétits de conquête sans cesse répétés du milliardaire républicain, les responsables du territoire autonome de l'océan Arctique espèrent désamorcer la crise et dissiper les malentendus, et plus encore défendre la primauté du droit contre l'abus de pouvoir érigé en système qui règne actuellement à Washington. Ce matin déjà, en amont donc de cette rencontre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a prévenu le Groenland appartient à ses habitants. Au terme du très fragile cessez-le-feu obtenu entre l'État hébreu et le Hamas après deux années d'une guerre effroyable, la trêve entamée le 10 octobre dernier dans la bande de Gaza demeure des plus précaires. 447 Palestiniens et 3 soldats israéliens ont été tués au cours des 3 derniers mois. Par ailleurs, plus de 2500 bâtiments ont été détruits dans l'enclave. Enfin, la situation humanitaire et sanitaire sur place est de pire en pire, puisqu'à la famine et aux épidémies s'est rajouté non seulement le froid, mais aussi des pluies torrentielles récemment accompagnées de vents violents et d'inondations. Et puis toujours au chapitre de ces hivers cauchemardesques, l'Ukraine reste là. Proie de bombardements massifs quotidiens, pilonnage sans relâche mené par l'armée du Kremlin et visant essentiellement le secteur énergétique. Et alors depuis la guerre d'invasion déclenchée par Moscou, il demeure aujourd'hui un seul dernier espace d'entente cordiale véritable entre les Occidentaux et la Russie, c'est la station spatiale internationale. Sauf que les 4 astronautes de l'équipage, 2 Américains, un Japonais et un Russe, vont devoir regagner la Terre, un retour prématuré pour raisons médicales. Jamais en plus de 25 ans d'opération spatiale connue vers l'ISS, une mission n'avait été confrontée à ce problème. Toujours est-il que leur capsule, donc Olivier Poujade, devrait se poser dans l'océan la nuit prochaine au large des côtes californiennes aux alentours de 3h du matin, heure américaine.
Lorsque leur capsule se place sur orbite le 1er août dernier, ces 4 astronautes étaient loin de se douter que l'un d'entre eux tomberait malade, que leur mission serait écourtée. La NASA l'a de nouveau répété hier, l'état de santé du patient est toujours stable mais suffisamment grave pour que l'ensemble de l'équipe soit rapatriée d'urgence. On ne connaît ni l'identité, ni la nationalité, ni même le mal dont il ou elle souffre. On sait seulement que les 3000 kits médicaux et les 200 molécules disponibles dans la pharmacie de la station ISS n'ont pas suffi à traiter ce problème de santé qui s'ajoutera dans quelques heures au choc physique consécutif à une mission dans l'espace, perte musculaire, affaiblissement du squelette et du système immunitaire. Cette évacuation d'urgence ne livrera pas tous ces mystères par respect du secret médical. Mais lorsque certains projets envisagent déjà de rejoindre Mars, d'anciens astronautes demandent à la NASA d'améliorer l'assistance médicale à bord de la station. Cette mission rappelle qu'avant d'être technologique, ce sont les limites du corps humain qui constituent le premier obstacle à la conquête lointaine de l'espace.
Midi passé de 44 minutes sur France Culture, la suite de votre journal. Thomas Cluzel.
Sébastien Lecornu fera face cet après-midi à deux nouvelles motions de censure, l'une déposée par le Rassemblement National et l'autre par la France Insoumise. Celles-ci ont toutefois peu de chances d'être approuvées puisque les socialistes, pas plus que les républicains, ne devraient choisir de censurer le gouvernement. En réalité, le véritable danger pour le Premier ministre est ailleurs, après que les débats sur le projet de loi de finances ont repris hier dans l'hémicycle et toujours sans perspective de majorité à l'Assemblée. Il pourrait être contraint de devoir recourir au 49-3 pour faire passer le budget, combien même il s'était engagé à ne pas dégainer l'arme constitutionnelle, ce qui, le cas échéant, ouvrirait sans doute la voie à une nouvelle motion de censure, cette fois-ci beaucoup plus à risque pour le gouvernement. Enfin, reste encore une dernière hypothèse, pas tout à fait formellement écartée à ce stade, le passage par ordonnance, une procédure qui constituerait malgré tout un précédent à la fois politique et historique très lourd dans le jeu institutionnel. Alors si la nervosité est aujourd'hui palpable au sein de l'exécutif, il semble en revanche que la pression exercée par les agriculteurs soit redescendue après que le Premier ministre a promis l'examen d'une loi d'urgence avant l'été. Les centaines de paysans qui avaient choisi de rester mobilisés en passant la nuit dans leur tracteur devant l'Assemblée ont fini par quitter la capitale tôt ce matin.
Eux comptent bien faire entendre leur voix ce soir lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du barreau de Paris.
Oui, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, y est attendu pour prendre la parole à l'invitation du bâtonnier avant d'assister au traditionnel vœu de la profession. Sauf que cette invitation ne fait pas l'unanimité chez les avocats parisiens. C'est ainsi que plus de 200 d'entre eux ont pris la plume pour signer une tribune ouverte dans laquelle ils estiment que la présence du garde des Sceaux serait, je cite, « une insulte pour leur robe ». Pourquoi ? Florence Sur m'a posé la question à l'un des 231 signataires, Romain Ruiz.
Le ministre de la Justice actuel, Gérald Darmanin, en réalité est un ministre de l'Intérieur qui s'est déguisé en garde des Sceaux et qui vient aujourd'hui au ministère de la Justice sans avoir quitté ses précédents habits, c'est-à-dire ceux d'un ministre de l'Intérieur ultra répressif et qui n'a eu de cesse de défier l'état de droit et d'amoindrir et d'écorner le pouvoir des avocats, la marge de manœuvre des avocats et la respectabilité d'ailleurs de la profession. La méthode Darmanin, qu'est-ce que c'est ? C'est une restriction de l'accès au juge, c'est une banalisation de l'état d'exception, c'est la fragilisation du secret professionnel des avocats et ce sont des pressions qui sont accrues sur les défenseurs, les avocats de la défense en matière pénale. Lorsque, en janvier 2025, c'est-à-dire il y a moins d'un an, Monsieur Darmanin se trouve à Marseille pour entendre une déclaration qui est celle du procureur général de Marseille vis-à-vis du narcotrafic et qu'il vient dire qu'un certain nombre d'avocats ne concourent pas à la manifestation de la vérité mais embolisent le système judiciaire et, en un mot commençant, sont plus ou moins les complices des clients qu'ils défendent, évidemment qu'on ne peut pas y voir autre chose qu'une attaque en règle contre notre profession. Ce que nous considérons, c'est que les seuls sceaux que Gérald Darmanin garde actuellement sont ceux de la répression, à telle enseigne que nous n'avons qu'un seul vœu à lui formuler, c'est celui qu'il retourne place Beauvau, recevoir les vœux de ses véritables ouailles qui sont les services de police, les services du ministère de l'Intérieur, mais en aucun cas ceux de la justice.
Des propos recueillis par Florence Turme.
L'information apparue ce matin au journal officiel, Free s'est vu infliger deux amendes d'un montant total de 42 millions d'euros.
Oui, l'opérateur a été sanctionné pour des manquements de sécurité concernant les données confidentielles de ses abonnés dans le cadre d'un piratage qui a eu lieu en octobre 2024 et affecté au total plus de 24 millions de contrats, des données à la fois d'identité, de contact, mais aussi pour certains clients. Leur IBAN avait été volé à cette occasion. Estelle Camerer, bonjour.
Bonjour.
La peine infligée par la CNIL, donc la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, apparaît malgré tout sans commune mesure, Estelle, au regard des précédents en matière de cyberattaque.
Et Free dénonce une décision d'une sévérité inédite et compte bien déposer un recours devant le Conseil d'État pour demander la révision de la décision. Mais la CNIL juge que la société n'a pas mis en œuvre les mesures élémentaires de sécurité pour empêcher l'attaque. Le pirate s'est introduit dans les serveurs via les accès à distance des salariés, censés être ultra sécurisés. L'authentification était bien trop faible, tout comme les systèmes permettant de détecter les activités suspectes qui n'ont rien vu venir. Free gère les données sensibles de dizaines de millions de personnes. Depuis l'attaque, des campagnes de fraude très crédibles, grâce aux données bancaires notamment, ont été lancées pour arnaquer les clients. La CNIL dénonce aussi un autre manquement, celui du stockage de millions de données d'anciens abonnés au service mobile, alors que des règles encadrent leur tri et leur conservation. Free a désormais 6 mois pour supprimer une partie de ces données et 3 mois pour finaliser le renforcement de sa sécurité. Un chantier commencé seulement après l'attaque. La CNIL justifie aussi le montant des amendes par le manque de communication de Free. Un mail a rapidement été envoyé et un numéro vert a été mis en place. place. Mais la commission juge que le message destiné aux clients était trop flou. Il ne permettait pas aux concernés de saisir les conséquences ou les gestes à mettre en place pour se protéger. Du côté de l'enquête, un mineur de 16 ans, soupçonné être l'auteur du vol, a été mis en examen en janvier 2025. Il est dans l'attente de son jugement.
Merci Estelle Caméraire. Le Nobel de l'environnement a été décerné aujourd'hui à une biologiste américaine, Toby Kears, spécialiste des interactions entre les plantes et les champignons essentiels à la vie sur Terre. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, encore couvert sur le nord et l'ouest. Partout ailleurs, le soleil devrait réussir à percer entre les nuages. Quant aux températures, elles sont comprises entre 8 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.